Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVR. Il aimerait bien ne plus aller à la banque, mais s'il n'y va pas, c'est pire. L'on vient le chercher. Alors il y va, mais se dispute avec tout le monde. Ces rapaces le dégoûtent. Une après-midi, il est à son bureau. C'est son associé qui vient lui rendre visite. C'est un homme grand, de 50 ans, chauve, mince, distingué. Il se salue et s'assoit. Monsieur Lévy Gudbro lui dit: « Je suis venu m'inquiéter de votre santé. L'on me dit que vous êtes nerveux, irritable. Avez-vous des soucis, mon ami ?»«
Non, pas du tout. Je ne comprends pas très bien votre démarche.
C'est-à-dire que les gens s'inquiètent. Vous avez un caractère en ce moment peu commode. »
Hubert sourit et dit:
« Oui, je vois. Je suis... énervé par tous ces gens qui veulent s'enrichir simplement en jouant à la bourse. Tous ces gens qui veulent gagner des millions comme ça sans rien faire et que se disent républicains. Cela m'agace. »
Mais vous aussi, mon ami.
Moi, ce n'est pas la même chose. Les finances, c'est mon métier. Ce n'est pas un jeu. Et puis, je ne suis pas républicain.
Il faudra vous y faire. Nous allons être envahis par ces nouveaux riches,
c'est la bourgeoisie qui monte.
Hubert soupire et dit
« Malheureusement, elle va prendre notre place. On nous regrettera. Nous, l'ancienne classe, car nous avions une certaine idée du sens du devoir et Dieu nous avait fait de la race supérieure, celle qui depuis des lustres dirigeait le monde et devait continuer à diriger le monde. »
Lévi regarde sa montre et dit « Que voulez-vous? Il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Je compte sur vous. Nos idées sont les mêmes, mais nous ne pouvons que rester neutres pour le moment. Prions, faisons l'or des courbettes. C'est la seule façon pour nous préserver. Que voulez-vous ? »
Il se lève
et dit encore « Je compte sur vous, mon ami. »
Et il sort.
Une fois que son associé est parti, il se demande pourquoi lui a joué le rôle du noble désabusé et horrifié par la nouvelle société. De toute façon, il m'aurait pris pour un fou si je lui avais dit que je voyais les êtres comme des bêtes aux instincts bestiaux.
Après-midi, un agent en uniforme vient sonner à son hôtel.
J'aimerais parler à monsieur le comte.
L'agent lui dit « Monsieur le comte, il faut que vous veniez avec moi. Monsieur le commissaire a à vous parler.
Que se passe-t-il ? » ?»«
Je ne sais pas, monsieur le comte. » Il suit l'agent surpris.
Le commissariat est à 5 minutes de l'hôtel. C'est un petit, sale, ça sent l'humidité, le linge sale et le tabac. Il monte au premier, l'agent frappe à une porte.
Entrez !
Il entre.
Est ressorti et a fait rentrer Hubert. Là se trouve, dans une petite pièce mal éclairée, un bureau avec assis un homme petit chauve à moustache noire et habillé d'un costume noir. Assis devant le bureau sur une chaise, surprise. Son fils, qui, en le voyant arriver, a baissé les yeux. Sur une autre chaise, près de lui, une femme, petite grosse, des cheveux gris, habillée de manteau marron. Le commissaire lui dit de s'approcher. Il s'approche.
Ce jeune homme est votre fils ?
Oui,
dit-il surpris. Il est mineur, c'est pour cela que je vous ai fait appeler. Voilà. Votre fils a été surpris dans une allée 57 rue Grenette par Madame Henriette Lepic,
ici présente. Cette dame est concierge de l'immeuble. Cette personne l'a surprise dans les escaliers entre le deuxième et le troisième étage. Il était en compagnie d'une autre personne, un jeune homme semble-t-il. Dès que Madame Lepic les a vus, ils ont semblé gênés et l'autre personne est partie en courant en arrangeant ses vêtements. Votre fils n'a pas pu s'enfuir. Madame Lepic le tenait fortement à la manche. Elle lui a demandé ce qu'il faisait ici, il n'a rien voulu dire. Alors, comme un locataire descendait, elle lui a demandé d'aller chercher un agent. Voilà, cela fait 2 heures que nous demandons à votre fils ce qu'il faisait dans l'allée. Il ne veut rien dire. Nous l'avons fouillé, trouvé ses papiers et on vous a appelé. Le commissaire soupire et dit à Guillaume, « Jeune homme, maintenant que votre père est ici, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez dans cette allée ?» Guillaume ne répond pas. Son père s'approche de lui et lui dit « Alors, réponds au commissaire que cette histoire stupide finisse !» Ne dit toujours rien, le père continue. « Tu n'as pas pu faire quelque chose de mal. Tu as accompagné un ami, hein ?» Et la concierge vous a surpris, la timidité vous a fait paniquer. Madame Lepic outrée. J'ai jamais fait peur à personne, moi. Et puis s'il avait la conscience tranquille, il nous dirait ce qu'il faisait. Moi, je sais ce qu'il faisait. J'en ai surpris plus d'un dans mon allée. Le commissaire dit. Quoi, madame? Du malpropre, des pervers. Qui font des cochonneries entre eux et qui dévergondent la jeunesse. Il faut voir comme ils ont dégueulassé mes escaliers. Le père fronce ses sourcils et regarde le commissaire. Le commissaire dit à Madame Lepic, « Je vous en prie, madame, vous n'avez pas aucune preuve. Allez, jeune homme, pour éviter ce genre d'accusation ou de soupçon, dites-nous ce que vous faisiez dans cette allée avec cet inconnu. » Guillaume ne dit toujours rien. Le père le regarde et lui dit « Parle !» Le commissaire hausse les épaules et dit « J'ai pas le temps à perdre. Vous allez partir avec votre père. N'oubliez pas que vous êtes encore mineur et que votre père est responsable de vos agissements. Quant à moi, je prends note. Et si l'on vous voit encore une fois dans une allée avec une personne, ça ne se passera pas comme ça. Nous regarderons de plus près pour voir vos mœurs et vos fréquentations. Monsieur le comte, prenez votre fils et faites en sorte à ce qu'il ne mette plus les pieds dans un endroit comme celui-ci. Ce n'est pas un lieu pour lui. Ici, il ne trouvera pas du bon monde, que de la crapule qui traîne dans le ruisseau. Allez, partez vite. » Hubert, confus, remercie et ils sortent. Dehors, le père furieux dit « Est-ce que tu vas m'expliquer cette histoire ?» Guillaume ne dit rien. Il suit son père. Le père hausse ses épaules et se dit « L'imbécile, se faire attraper pour un rien. Tu n'es pas digne de moi. Moi j'ai tué, je suis libre. Par ta faute, je vais être obligé de jouer les moralisateurs. Autrement, on risquerait de me comprendre. » Ah. Mais si tu ne parles pas, je veux tout de même savoir ton secret, qui tu es vraiment. Je surveillerai, mon vieux. Je veux savoir quel démon se cache dans ce fils si sage. » Ils sont arrivés chez eux. Arrivé, il emmène son fils au salon. Le fait asseoir et s'assoit.
et lui dit
« Alors, veux-tu m'expliquer ?»
Guillaume baisse la tête.
« Parle ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce si grave que ça ?»
Guillaume baisse la tête. Le père soupire.
« Je veux savoir pourquoi je t'ai retrouvé dans un commissariat. Réponds !»
Il attend quelques secondes.
« Tu veux rien me dire ?»«
Je veux le savoir. Tu me le diras. S'il le faut, je te le forcerai à me parler. Par la force, tu m'entends ?»
Le fils ne bouge toujours pas. Le père furieux se lève et va vers son fils. D'un geste brusque, il le lève. Le tient par le haut de sa chemise et le secoue.
J'exige que tu me le dises. Tu me veux pas me le dire. Eh bien, nous verrons.
Le père furieux pousse son fils qui tombe à terre. Le père défait sa ceinture. Ça a été si vite que Guillaume n'a pas eu le temps de se relever et lui donne un coup de ceinture. La porte s'est ouverte. C'est sa femme et sa fille qui rentrent furieuses. La mère se met entre son mari et son fils, qui est à terre. Sa sœur va vers lui pour le relever. Hubert est en sueur. Il lâche sa ceinture qui tombe sur le sol. Sa femme le regarde et lui dit
« Vous n'avez pas honte de vous comporter ainsi ?»«
Et vous, madame, de quoi vous mêlez-vous ? Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Et pourquoi j'agis comme ça ?»«
Quelles que soient vos raisons, monsieur, elles ne sont pas votre geste. »
La sœur soutient Guillaume et ils sortent de la pièce. Le père les a regardés et dit
« Votre fils, je l'ai récupéré dans un commissariat et la prochaine fois, ce sera la prison. »
Elle touche ses épaules. À notre époque, n'importe qui est arrêté. Ce n'est plus un déshonneur. Toutes les grandes familles y ont passé. Regardez-lui, Napoléon.
Mais ce n'est pas pour une raison politique. Il a été arrêté.
Elle touche ses épaules et s'assoit.
Quoi alors ?
Il avait un comportement louche dans une allée avec un jeune homme.
Elle rit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote ? On ne peut plus aller dans une allée maintenant. La police surveille les allées et venues.
Il s'assoit abattu.
C'est une concierge qu'il a appréhendé et prévenu la police.
Elle regarde avec dédain son mari et dit
« Une concierge arrêtait mon fils. On serait retourné au temps de la terreur. »
Elle hausse ses épaules et dit
« C'est pour cela que vous fouettiez votre fils. »
« Oui, parce qu'il s'obstine à ne pas me dire ce qu'il faisait dans cette allée avec un individu. »
Elle se lève.
Il dit avec dédain. Il a parfaitement raison. Il n'a pas à répondre au ragot d'une concierge. C'est d'un d'Argenteuil.
Son mari soupire et dit
« J'abandonne. C'est impossible de vous expliquer quoi que ce soit. »
« Puisque je ne peux rien vous dire, je m'en vais, monsieur. » Elle quitte la pièce.
Une fois seul, il se dit
« Elle est incapable de voir quoi que ce soit. Quant à toi, mon ami, je veux savoir ce que tu caches. Je te vois bien la fissure de ta carcasse.
Une demi-heure plus tard, il sort du salon. Et voit sa femme dans le hall d'entrée, habillée pour sortir, chapeau, voilette, gants, manteau et bourse.
Tu sors ?
Oui, je vais voir Hortense. Je vais l'aider à préparer sa vente de charité.
Bien.
Et il la voit s'éloigner. Et se retourner avant de partir.
Je n'en ai pas pour longtemps. Une heure ou deux.
Tu prends un fiacre ?
Non, je vais marcher un peu à pied.
Bon.
Et elle sort. Et se dit songeur.
Bizarre. Après cette scène, elle sort. Et seule, sans cocher. Cela ne m'étonnerait pas qu'elle ait aussi un secret.
Et décide de la surveiller. Le lendemain, elle sort vers la même heure et lui dit
« Toujours les préparatifs de la vente de charité ?»«
Oui. »
Et elle sort. Deux minutes plus tard, il prend manteau, chapeau et sort par une porte dérobée. Il la voit, elle marche à petits pas, la suit de loin. Elle va de rue en rue, il la suit toujours. Puis, tout à coup, elle entre dans une allée d'un immeuble et surpris se dit que ce n'est pas là qu'habite Hortense.
Elle a un amant.
Voilà, la phrase a été lâchée. Ça fait mal, mais elle est lâchée.
Un amant? Qui ça peut-il bien être?
Ne connaît personne dans cet immeuble. Attends un moment, se met sur le trottoir en face pour voir la façade et les fenêtres. C'est un immeuble ancien, qui a été beau. Les rideaux sont tirés, on ne voit rien. Il s'en retourne et se dit
« Quand j'aurai le temps, je me renseignerai pour savoir qui habite ici. »
Le fils, toujours rien, la plupart du temps il reste enfermé dans sa chambre. Pour les repas, il les passe en silence. Cela agace son père, mais que faire? Sa femme est là, qui le surveille. Le dimanche, il ne peut faire autrement que d'aller à la messe, autrement il y aurait une dispute avec sa femme. Il se dit que pour être libre, il ne faut pas de famille. Pendant l'office, il songe comment il pourrait la quitter. Les enfants sont grands, n'ont plus vraiment besoin de moi. La preuve, Guillaume. Quant à ma femme, si elle a un amant, cela ne changera pas trop.
Si je la préviens, de mon départ, j'aurai des scènes. Il vaut mieux que je parte comme ça, un matin, sans prévenir, en n'emportant rien. Ou je pourrais stimuler un faux suicide, mettre mes vêtements et papiers sur les berges de la Seine et reparaître comment
avec de faux papiers à l'étranger, en Amérique, ou encore ne pas m'enfuir mais faire disparaître toute ma famille. Des champignons, ils en mangeraient tous, sauf moi, qui ne les aime pas. Tout le monde sait que je n'aime pas les champignons. Veuf riche et heureux. Heureux. Qu'est-ce que ça me ferait de perdre ma famille? Est-ce que j'aurais de la peine? Ou en les quittant? Est-ce que je les aime vraiment? Je suis un monstre, sans corps et sans attache. Un vrai nature, quoi. De toute façon, c'est quoi la famille? Des êtres qu'on n'a pas choisis et qui s'imposent. Sauf ma femme, mais sa femme restait toujours pour son mari une inconnue. Ses enfants, ils changent tout le temps. Ils grandissent. Ils sont petits, ensuite ils deviennent des enfants, ensuite des adolescents, ensuite des adultes. Et dès qu'on commence à s'habituer, ils changent, ils deviennent autres. Autre, alors quoi? Pff, les enfants, pouf! Les enfants, ce sont de petits monstres égoïstes qui muent tous les 6 mois. Pourquoi les aimerais-je? Ils ne m'aiment pas. Et puis, je devrais les aimer parce que ce sont mes enfants. Mes enfants. Que j'ai fait? Fait si l'on veut. J'ai couché avec une femme. Un liquide est entré en elle. Et voilà. Comment peut-on se sentir père pour un geste aussi insignifiant? Non. Je ne sens ni père, ni mari, rien de rien. Rien du tout. Rien, 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 rien. Qu'est-ce que je fais ici avec eux?
La messe s'est terminée, sa femme lui a tapoté le bras. Il se dit que décidément la messe a du bon. C'est bien pour méditer. Dommage qu'elle ne dure pas si longtemps. Il n'a pas eu le temps de prendre une décision pour sa disparition. Dommage.
Il est chez lui au salon et tout à coup, il pense à une chose. Et le corps et la disparition de Juliette. Qu'a fait la bonne? Avec toutes ces histoires de famille, il avait complètement oublié la sienne, son crime. Il prend les journaux de la semaine. Pour voir s'il n'y a rien.
Non, rien. C'est étrange, cela fait presque un mois qu'elle a disparu et pas de recherche de police.
Il se demande avec curiosité ce qui s'est passé.
Il aimerait le savoir,
Mais comment faire? Il faudrait retourner dans le quartier.
Pourquoi pas?
Ça ne lui est pas interdit. Et il est libre. C'est un quartier comme un autre.
Un après-midi, il prend manteau, chapeau et y va.
Sur le trottoir, il y a du monde. La rue semble n'avoir pas changé. Cela lui fait tout drôle d'être là. Il a l'impression que rien ne s'est passé. C'est comme s'il allait la voir. Tiens, la maison, son allée, tout est calme. Tout semble calme.
Depuis qu'il croit savoir que sa femme le trompe, il se sent agacé, énervé. Il fait les 100 pas dans son bureau et essaye de se raisonner.
On a beau avoir tué sa maîtresse, on n'a même pas moins sa femme. Pourtant, je suis bête d'être jaloux. Puisque, d'après mes idées, elle doit être libre comme tout être humain. Je n'en vais tout de même pas décréter la liberté et l'empêcher à ma famille. Ce serait le comble tout de même, non?
Après un moment d'agacement, il reprend et dit
« Je n'y peux rien ».
Tout à coup, il entend des pas dans le couloir. Il reconnaît sa démarche. Ouvre la porte. C'est bien elle, habillée.
Où vas-tu?
Mais qu'as-tu à toujours me demander ça? Je vais chez mon parfumeur.
Elle le quitte. Il ferme la porte de son bureau. Il souffle et dit
« J'en ai assez, je vais vivre tranquillement et ne plus me poser de questions. »
Camille, à la messe, s'ennuie. Elle y va, c'est pour faire plaisir à sa mère. Elle comprend sa mère qui s'est attachée à la religion, comme toutes les femmes. Elle n'a que cela. La politique lui est interdite. Les finances, le travail. On ne laisse aux femmes que la famille et la religion. En allant à la messe, je me solidarise avec elle. Mais moi, je refuse. Je veux
choisir ma vie. Oui, je veux choisir ma vie. Je refuse.
pense-t-elle.
Un dimanche, à la messe, l'église baigne de lumière multicolore des vitraux. Le chant mélodieux des fidèles, un rayon de soleil colore en vert, réveille de sa torpeur Camille. Elle a l'impression que c'est la première fois qu'elle voit ce qui l'entoure. Tout semble lumineux, beau, simple. Une grande douceur l'envahit. Elle regarde les gens qui sont autour d'elle et semble les voir d'une autre manière. Ils ont l'air bons. Elle sourit et se dit qu'elle aimerait les embrasser. Elle se sent heureuse ici, au milieu de ces gens, et veut participer à leur communion. La messe finie, elle est sortie de l'église. Un vent froid la prend, le bruit de la rue la surprend. Elle est poussée par les gens qui ne la regardent pas. Les fiacres font un bruit impossible. Elle se met à regretter la douce ambiance de l'église et sent que le monde lui est insupportable. Elle entre dans le fiacre avec ses parents et durant tout le trajet ne parle pas. Arrivée à l'hôtel, elle monte à sa chambre pour se changer. Là, elle dépose machinalement, comme elle le fait toujours, sur sa table de nuit, son livre de messe. Mais cette fois, sa couverture en maroquin marron, les dorures des bords de page lui font le reprendre. Elle le regarde bien et l'ouvre. Et lit au hasard. L'odeur du papier Bible, son toucher lui est agréable. Elle lit « Oh Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison et le lieu où habite votre gloire. Ne perdez pas mon âme avec celle des impieux. Ô Dieu, ne perds pas ma vie avec les hommes de sang. Leurs mains sont remplies d'iniquité, leur droite pleine de présents. Pour moi, j'ai marché dans l'innocence. Délivrez-moi, ayez pitié de moi. » Elle est touchée par ce qu'elle vient de lire. Referme le livre et le pose sur la table de nuit. Et se déshabille. Après le déjeuner, elle retourne à sa chambre. Pour pouvoir lire, elle s'assoit sur une chaise près de la fenêtre. Cela l'apaise, la sort de ce monde bruyant, futile, sans intérêt. Son père se demande ce qu'elle fait des heures dans sa chambre. Elle est peut-être malade. Il monte la voir. Frappe à sa porte. Elle lui a ouvert le livre à la main.
« Je peux entrer, petite ?»«
Oui, père. » Il entre, elle ferme la porte.
« Je suis venu te déranger, mais je me demandais si tu n'étais pas malade par hasard. »
Elle sourit et lui dit « Non, pourquoi, père ?»«
Parce que tu es toujours enfermé dans ta chambre. Que fais-tu ?»«
Rien, père, je lis. »«
Tu lis ?»«
Oui, des prières. »
J'ai prié, tu te moques de moi?
Non, je vous assure, je trouve cela très reposant.
Je n'aurais jamais cru ça de toi, ma fille. Ma fille qui devient mystique.
Non, père, j'aime lire ses prières et c'est tout. Je me sens bien avec elle.
Eh bien, si c'est une de tes nouvelles lubies, celle-là au moins est plus reposante que les autres. Je te laisse.
Ne vous moquez pas de moi, père. C'est très sérieux, je vous assure.
Je sais.
Et il la quitte. Guillaume ne parle toujours pas. La famille le laisse tranquille. Il semble souffrir une souffrance de l'âme. Lorsqu'il sort, c'est en baissant la tête qu'il marche pour ne pas voir les gens. Il marche d'un pas rapide. À l'université, il ne parle à personne, se met dans un coin, fuit tout le monde.
Madame Désir.
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
à une soirée que sa mère organise et qu'il est obligé d'assister, il remarque un drôle d'homme, grand, maigre, les cheveux mi-longs, en désordre, le visage osseux, mais beau, et de belles mains fines et longues, qu'il agite comme des papillons à chaque fois qu'il parle. Autrement, pour écouter, il plie un de ses bras, pose le coude sur son autre bras et tient une cigarette élégamment entre ses doigts. Il a de grands yeux bleus perçants. Ses vêtements sont étriqués, trop courts pour lui. Tout cela lui donne un genre bizarre. Guillaume se demande quel peut bien être cet homme. Sans que Guillaume fasse quoi que ce soit, l'autre va vers lui. « Bonjour, je m'appelle Jean Lecoq. Je suis Guillaume, le fils de la maison. » L'autre lui tend la main, une main molle et froide. « Enchanté, je m'amuse follement en regardant tous ces gens. J'ai l'impression d'être dans un cirque. Il y a de tout ici. Des autruches, dromadaires, éléphants, lions, tigres, otaries. Regardez ce gros-là. Et là. » Guillaume rit. Enfin une personne sympathique et originale. Ah, il passe toute la soirée à donner des noms d'animaux aux invités, boivent du champagne et rient. Jean lui dit, « Que faites-vous dans la vie ?»« Je suis à l'université, et vous ?»« Je suis chez ma mère, j'écris des poèmes que je lis en société. »« Mais il y en a que je lis qu'à des intimes. »« Je les lis en fumant de l'opium. »«
De l'opium ?»«
Oui. » Vous connaissez ?
Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas vraiment.
Où te voyez, jeune homme ? Un jeune homme comme vous se doit de connaître l'opium.
La soirée se termine, les invités commencent à partir.
Je dois vous quitter, j'ai rendez-vous avec Loulou. Voici ma carte, si vous voulez venir me voir. Et il quitte Guillaume.
Guillaume rit tout seul dans sa chambre de tout ce qu'ils ont dit. Ça fait si longtemps que je me suis autant amusé.
Une semaine plus tard, il rencontre dans la rue Jean qui l'accoste. « Bonjour, vous n'êtes pas venu me voir. »
Guillaume ne sait pas pourquoi, mais se sent confus.
« Je n'osais pas, et puis j'avais peur de gêner. »«
Mais non, grand bêtant, allez, viens. »
Il le prend à l'épaule et lui dit,
« Viens, ma mère est absente. Nous serons tranquilles dans la villa. »
Mais je ne sais, l'on m'attend.
Quoi ? Un grand garçon de votre âge a besoin de demander la permission à passer un moment avec moi, avec un ami. Oh, un ami comme moi.
car je suis un ami, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Jean lui sourit, lui aussi, et se mettent à rire tous deux en marchant.
Jean le mène dans un quartier du Marais. Son hôtel, ou plutôt celui de sa mère, date de Louis XV. Il a appartenu à une favorite. L'hôtel est délabré et ressemble à un château de la Belle au bois dormant. Avant d'entrer, Jean lui dit :
Nous serons tranquilles. Les domestiques sont aussi absents.
Ils entrent.
C'est sombre et plein de moulures, sculptures bizarres, étranges, qui au premier abord fait peur, puis donne un genre irréel de conte de fées, mais de bon goût. Au fond d'un vaste couloir se trouvent deux rangées de grands et gros candélabres sur pied. Un grand escalier de pierre avec une rampe tout en moulures. Jean le dirige vers l'escalier et lui dit :
Ne soyez pas ému de tout ça. Moi, j'en ai pris l'habitude. J'y vis depuis ma naissance. Ma chambre est plus simple.
Nous y serons bien. Ils montent trois étages, suivent un long couloir, tout aussi moulé que l'entrée. Et Jean ouvre une porte.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la quatrième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.